Bonjour et bienvenue dans le podcast Penser la santé. Cet épisode est consacré aux questions posées par le médicament hospitalier. On parle souvent du médicament en général, mais les particularités du médicament hospitalier et du rôle très important des pharmaciens hospitaliers est rarement mis en lumière. Qui s'est déjà rendu au comptoir d'une pharmacie hospitalière ? Bien peu de personnes. Et pourtant, tous ceux qui ont un jour été hospitalisés ont eu affaire à des produits de santé préparés par une pharmacie hospitalière. En effet, dans chaque service d'un hôpital, le médicament n'est pas seulement acheminé. Il est fabriqué, contrôlé, délivré, transporté et scrupuleusement évalué, contrairement à la pharmacie de ville, qui répond à des prescriptions simples et aux demandes d'automédication. La pharmacie hospitalière gère des préparations complexes, sur mesure, adaptées à chaque patient et à chaque service. C'est par exemple le cas des anticancéreux, des radiopharmaceutiques ou des médicaments utilisés dans le cadre des thérapies innovantes qui font l'objet de préparations magistrales, c'est-à-dire sur mesure. Les pharmaciens hospitaliers sont également impliqués dans les essais cliniques, la recherche pharmacothérapeutique, et ils peuvent participer aux réunions de concertation pluridisciplinaires où se discute le choix des traitements pour chaque patient. Mais leur rôle ne s'arrête pas là. Ils gèrent aussi la distribution de matériel médical implantable, comme les simulateurs cardiaques ou cérébraux, les pompes à insuline, les prothèses de hanche, les implants mammaires. Ils assurent la stérilisation des instruments utilisés en bloc opératoire. Et ils sont responsables des gaz médicaux essentiels au traitement anesthésique et respiratoire. Les différentes activités de la pharmacie hospitalière sont au cœur du soin et elles posent d'importantes questions. Comment garantir l'accès au traitement dans un contexte de pénurie de médicaments ? Que faire face aux effets secondaires qui affectent la qualité de vie des patients ? Comment équilibrer la sécurité du médicament et la recherche d'innovation ? Pour réfléchir à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Marion Bourdoncle, qui est praticien hospitalier, pharmacien gérant au centre hospitalier de Condom, Philippe Sestac, qui est pharmacien hospitalier, chef du pôle pharmacie au centre hospitalier universitaire de Toulouse et professeur de pharmacie clinique à la faculté de pharmacie de Toulouse, et Frédéric Évrard, qui est pharmacien hospitalier au sein du pôle pharmacie au CHU de Toulouse. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
Bonjour.
Nous nous retrouvons pour la troisième partie de l'épisode consacré aux questions posées par le médicament hospitalier. Ma question elle porte plutôt sur les nouvelles technologies. Alors ça, c'est un champ qui s'est beaucoup développé dans les dernières années. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, en pharmacie hospitalière, vous utilisez le numérique, vous utilisez la robotisation, peut-être l'impression 3D, peut-être l'intelligence artificielle, peut-être la blockchain. Je ne sais pas exactement si c'est le cas pour vos pharmacies ou pas. Mais ce sont des changements qui peuvent avoir un impact sur la manière de travailler et aussi la manière de contrôler les médicaments, j'imagine.
Alors, oui, il y a plusieurs évolutions. La première pour nous, ça a été effectivement l'avènement de l'informatisation du circuit du médicament.
Oui.
Ça, c'est la première évolution, avec l'accès aux données cliniques, aux données biologiques, à l'échelon des établissements de santé, ça a moins de 20 ans.
Ça.
C'est faut ça. Vraiment comprendre que voilà. Donc l'informatisation de la prescription, elle a révolutionné la prise en charge thérapeutique et elle a permis de déployer tous les termes dont on vous a parlé précédemment et notamment la pharmacie clinique. Voilà, quand vous êtes dans un hôpital de 3000 lits, vous pouvez pas être dans 400 services en même temps. Alors l'informatisation aide. Elle ne règle pas tout, mais elle aide à véritablement avoir accès aux prescriptions, à pouvoir être dans ce qu'on appelle du workflow, c'est-à-dire de véritablement aussi intervenir dans le circuit du médicament, de faire des propositions d'intervention pharmaceutique. On reçoit de la data et on en renvoie.
Voilà. D'accord,
et donc,
c'est un échange.
C'est un échange, en fait. Voilà. Alors, bien évidemment, ça ne se substitue pas à l'humain. Et on sait très bien d'ailleurs que si on ne fait que de l'analyse pharmaceutique de façon dématérialisée, on n'a pas les mêmes impacts cliniques sur l'acceptation des prescriptions que si on est dans les unités de soins. Donc il faut panacher les deux. Mais en tout cas, c'est une révolution qui a été bienfaitrice à la fois d'abord pour les patients et ensuite pour le déploiement de l'activité de pharmacie clinique dans les établissements de santé. La robotisation, c'est aussi des outils qui sont très importants. Et là, la mutation, elle est que débutante. Notamment pour nos activités de production. Mmh. Aujourd'hui, on a des robots pour la délivrance des boîtes de médicaments, ce qu'on appelle la distribution globale. Voilà, donc aujourd'hui, vous avez des machines qui permettent de préparer des dotations pour les différents services.
Pour une pharmacie de services, par exemple, un stock de services.
Voilà, sur commande, etc., etc. Et avec aujourd'hui des débits qui augmentent et qui permettront certainement d'améliorer, y compris l'approvisionnement de petites et de moyennes structures, parce que les équipements coûtent cher. Par exemple, nous, on a acheté un robot... il y a 3 ans, c'est 1,5 million d'euros d'investissement. Oui. Donc tout le monde ne peut pas...
C'est un très gros investissement.
Voilà. Ouais. Mais aujourd'hui, il y avait des cadences qui permettent de pouvoir travailler pour un groupe hospitalier territoire, par exemple, voire plus. Donc les activités de production, aujourd'hui, elles se prêtent l'automatisation. Mmh. C'est vrai pour cette activité, c'est vrai pour les chimiothérapies, par exemple. Aujourd'hui, on l'imagine moins. Aujourd'hui, par exemple, sur le site de l'Oncopole, ils vont faire l'acquisition de 3 robots pour préparer les postes de chimiothérapie. Ces robots, ils amènent deux éléments en général, hein, si on essaye de généraliser les choses, plus de productivité et plus de sécurité. C'est-à-dire que, y compris sur une poche préparée par chimiothérapie, on est beaucoup, beaucoup plus précis lorsqu'on peut le faire à la main. Voilà. Alors, bien évidemment, tout cela nécessite de la supervision humaine.
Ah oui, bien
humaine.
Sûr. Oui, oui, hein, oui.
C'est très important de redire cela. Tout cela se fait sous supervision humaine. Mais en tout cas, cette robotisation, aujourd'hui, elle est de plus en plus importante pour notre métier de la pharmacie hospitalière. Ensuite, vous avez dans les mots-clés que vous avez avancés, alors l'impression 3D, voilà, donc effectivement, on commence à... Et la période Covid a été une période importante sur ça, parce qu'on était tellement parfois en difficulté que, à la fois pour certains médicaments, la fabrication de certains médicaments, la fabrication de certains dispositifs médicaux, des implants, etc., etc., on peut avancer sur... voilà. Donc là, on est plutôt encore dans le champ de la recherche, de l'innovation, mais ça va arriver de plus en plus, et notamment en Occitanie, on a une structure à Nîmes, au CHU de Nîmes, qui travaille pas mal sur ces sujets-là. Intelligence artificielle, oui. Donc là... on est au début, mais ça va révolutionner pas que la pharmacie hospitalière,
oui, oui,
mais aussi la pharmacie hospitalière, sur plein d'aspects. Peut-être les plus prégnants pour le soin, ou en tout cas pour l'innovation, c'est tout ce qui va concerner deux choses. D'une part, l'analyse de la littérature, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va pouvoir, en quelques minutes... passer par exemple 50, 100 articles en anglais, et puis assez rapidement avoir des synthèses pour pouvoir faire en français, pour faire le point sur telle prise en charge thérapeutique. Donc ça, c'est quand même assez révolutionnaire. C'est le début, il va falloir là aussi superviser tout ça. Voilà, ça va véritablement être quelque chose de très très important. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est la conduite de nos processus, des réunions entre collègues, des RCP, où en fait les outils vont être en capacité de faire des comptes rendus d'hospitalisation. Sur Montpellier, par exemple, j'ai assisté il n'y a pas très très longtemps à une présentation où il y avait en direct, vous avez un médecin qui discute avec une patiente. Bien sûr, l'outil reconnaît les propos des différentes personnes. Et à la fin, la synthèse est confrontée, par exemple, aux indicateurs des principaux essais cliniques dont dispose le professionnel de santé, avec les critères d'inclusion. Et au regard de tout ce qui a été dit pendant la séance, eh bien, il va pouvoir confronter ces essais cliniques qui sont à disposition pour le professionnel de santé, et proposer au patient qui est en consultation le ou les essais cliniques dans lesquels il pourrait rentrer.
D'accord.
Et donc, on voit que
C'est un facilitant, en fait.
Un gros facilitant, et donc ça, ça va quand même accélérer beaucoup, beaucoup de prises en charge et les sécuriser aussi.
Oui, c'est assez intéressant parce qu'on voit que le rôle des nouvelles technologies, finalement, c'est un rôle d'assistance dans des tâches qui sont déjà existantes, mais ça va faciliter avec leur développement ces tâches. Est-ce que ces nouvelles technologies, elles peuvent réduire le risque d'erreur?
Oui, par définition, si y a la bonne supervision humaine, oui. Mais par contre, il ne faut pas être non plus complètement angélique par rapport à ces outils, parce que tout dépendra de la source de la data. Et donc, se posent aussi beaucoup, beaucoup de questions. Si à un moment donné, dans un système, vous avez, par exemple, de la donnée complotiste, si on prend la vaccination,
et qu'on va taper
dans des bases de données où il y a une surreprésentation des données complotistes, eh bien, forcément, l'intelligence artificielle fera la synthèse de cet état-là. Donc, aujourd'hui, mais comme dans tout sujet innovant, il faut ne pas en avoir peur, mais il faut encadrer le risque. Mmh. Pour encadrer le risque, il faut en avoir la connaissance.
Oui, c'est ça. Il faut se former et rester vigilant, finalement, sur les données qu'on exploite.
Exactement.
Les pharmaciens hospitaliers participent donc aux essais thérapeutiques et au développement d'innovations en termes de traitement. Frédéric, je me tourne plutôt vers vous pour cette question, parce que ces innovations, elles peuvent concerner de nouveaux médicaments, mais aussi de nouvelles formes galéniques, c'est-à-dire la forme sous laquelle un médicament est présenté au patient. Alors, ça peut être des patchs, ça peut être des implants, ça peut être une libération prolongée ou des nanoparticules. Et puis, il peut y avoir aussi ce que j'ai lu récemment, donc qui m'a semblé très surprenant, je ne savais pas que c'était possible, mais des biocapteurs qui transmettent des données en temps réel. Ça existe vraiment, ça?
Donc, effectivement, il y a beaucoup d'innovation dans la galénique des médicaments. Par exemple, maintenant, il y a certains vaccins qu'on va pouvoir prendre par voie orale, alors que des choses n'étaient pas envisageables jusqu'à présent, où on cherche à améliorer certains médicaments qu'on injecte par voie intraveineuse hyper régulièrement, avec des libérations prolongées, à pouvoir les administrer. Je pense notamment à certains médicaments qui ont été révolutionnaires dans l'hémophilie. On les admise que toutes les deux semaines, par exemple, voire tous les mois.
Change vraiment la fréquence d'administration. C'est beaucoup plus de confort pour le patient.
Oui, surtout des capitales veineux qui sont amoindries avec le temps, puisqu'on va par définition se perfuser toute sa vie. On a aussi, dans la prise en charge du VIH, maintenant, des médicaments qu'on ne prend plus par voie orale quotidiennement, mais injecté tous les deux mois, voire bientôt, peut-être tous les six mois. Mmh. Donc, toute cette recherche, effectivement, elle fait vraiment avancer la qualité de vie des patients, et puis aussi l'observance, puisqu'on est sûr que le médicament il est efficace six mois, tandis que si on le prend tous les jours, il y a un risque qu'il ne soit pas pris tous les jours.
Oui, c'est ça. Mmh, d'accord.
Pour tout ce qui est biocapteur, je n'ai pas eu d'essai clinique à gérer à ce sujet-là, je peux pouvoir vous répondre.
D'accord.
Mais on est en train d'avancer un peu sur ces sujets, si on prend le sujet de la diabétologie, par exemple, on va vers ce qu'on appelle l'équivalent d'un pancréas artificiel. C'est-à-dire d'arriver à avoir la lecture de la glycémie en continu.
Oui.
Et face à cette lecture de la glycémie, le fait de pouvoir injecter en temps réel l'insuline qui permettra de réguler le taux de glucose dans le sang.
À la dose ajustée, en fait, à la situation du patient.
Donc, d'accord. On est en train de réfléchir et c'est en train d'arriver, ça, à avoir des boucles, en fait, de rétrocontrôle entre une valeur qui va être lue, là, pour le coup, la valeur de glucose dans le sang, et la capacité, à un moment donné, de...
Bon, on n'y est
pas tout à fait, mais en tout cas, on n'est pas très loin d'obtenir ce genre de révolution, quand même.
Voilà. Oui, parce que là, on voit que ce dont vous parlez, c'est quand même à visée de soins, mais aussi à visée de confort et de sécurité pour le patient. J'étais en train de me demander si ça vous arrivait d'utiliser un patient simulé pour voir ce que vont donner les molécules ou ce genre de choses.
C'est toute la question de ce qu'on appelle aussi les jumeaux numériques,
oui.
Qu'on entend beaucoup à l'heure actuelle. À mon niveau, dans ma pratique, je n'ai pas eu l'occasion de le voir, mais c'est des choses qui arrivent, et notamment grâce à l'aide de l'IA, l'idée de ne plus avoir besoin de faire un essai clinique, in fine, hein, dans un avenir, et du coup, d'avoir des données sur des jumeaux numériques, c'est hyper intéressant, effectivement.
Et est-ce que toutes ces recherches dont on parle, est-ce qu'elles ont lieu dans les laboratoires de la pharmacie hospitalière, ou est-ce qu'elles ont lieu à l'université, finalement, dans des laboratoires de recherche séparés, distincts?
Tout ce qui est recherche galénique, tout ça, ça peut se faire dans des laboratoires de faculté. Pour autant, ce qu'on va appeler la recherche clinique, c'est-à-dire le fait d'éprouver l'efficacité et la sécurité d'emploi des nouveaux médicaments, elle se fait vraiment au sein de services cliniques, particulièrement d'unités dans nos établissements, en tout cas, qui sont dédiés même à cette recherche clinique-là. Des centres d'investigation clinique, des centres de recherche clinique qui vont accueillir ces patients-là sur certaines thématiques et qui sont référés par des médecins de l'établissement et qui vont déployer des protocoles de recherche clinique qui leur sont proposés, par ce qu'on appelle des promoteurs. Donc, soit des promoteurs industriels, des laboratoires pharmaceutiques de différentes tailles, soit des très gros, soit des plus petites boîtes, soit des promoteurs institutionnels. Ça peut être un établissement de santé qui déploie un médicament déjà connu, mais dans une nouvelle indication, et qui cherche à en retirer, savoir quel bénéfice et quel risque il y a.
Qui est un suivi avec des observations. Et je me demandais, je reviens vers vous Marion pour cette question, est-ce que ça vous arrive de devoir délivrer un médicament qui est prescrit en dehors du cadre conventionnel, c'est-à-dire un médicament qui n'a pas été conçu pour ce traitement, mais le médecin a décidé d'utiliser par exemple un effet secondaire ou quelque chose qui a été observé secondairement, en tout cas sur ce traitement?
Oui, tout à fait. Il peut très bien arriver qu'un prescripteur décide de prescrire un médicament dans une situation qu'on appelle hors autorisation de mise sur le marché, parce qu'il estime que le bénéfice-risque, le fameux rapport dont parlait Philippe tout à l'heure, est bénéfique pour le patient dans une indication donnée. Par contre, il va devoir argumenter pourquoi il le fait, etc.
Il argumente auprès de vous ou auprès...
Alors, il argumente dans le dossier patient, ça peut être une décision partagée. Puis après, il existe des statuts dérogatoires, donc par exemple, qui vont encadrer cet usage hors AMM. Donc par exemple, on va avoir les recommandations temporaires d'utilisation, où c'est des médicaments qui sont autorisés pour d'autres indications, qui vont être utilisés dans d'autres indications, et sur lesquels il y a un suivi particulier justement pour évaluer le rapport bénéfice-risque dans des indications hors AMM, mais qui sont usuellement utilisées.
C'est usuel, mais en dehors des prescriptions habituelles?
Voilà, tout à
c'est
fait. En fait, certaines sociétés savantes ou même des organisations de patients peuvent saisir l'Agence nationale de sécurité du médicament pour étudier justement un usage en dehors de l'AMM, mais dont on le sait qu'il existe.
D'accord. Et dans ce cas-là, on va retourner à la question de la clinique faire des essais, finalement, peut-être pour étendre la possibilité de prescription.
C'est possible qu'il y ait un essai clinique qui soit déployé plutôt par des institutions, des établissements pour évaluer l'effet d'un médicament en dehors de l'autorisation de mise sur le marché qu'il a. Pour autant, il y a aussi tout un pan entre la recherche clinique, les essais cliniques et la mise à disposition d'un médicament au titre de son AMM. Et ce dont parlait Marion, c'est tout le champ des accès dérogatoires. Les accès dérogatoires, donc, c'est des médicaments qui ont pu bénéficier déjà d'essais cliniques avant leur mise sur le marché à grande échelle et principalement à vocation dans les pharmacies d'officine, les autorités peuvent encadrer la mise à disposition de ces médicaments, auquel cas c'est les pharmacies hospitalières qui vont être amenées à délivrer ces médicaments-là aux patients intra-hospitaliers, mais aussi ambulatoires via la rétrocession. Donc ce qu'on appelle les médicaments en accès dérogatoire. Plus précisément, il y a deux typologies de médicaments qu'on va retrouver dans ce sens-là. Les médicaments en accès précoce, c'est-à-dire un industriel développe le médicament dans telle indication et donc il cherchera à avoir une autorisation de mise sur le marché. Avant que celle-ci soit pleinement efficace, ça prend plusieurs centaines de jours avant qu'il soit mis sur le marché. On permet à ces patients-là qui sont en impasse de bénéficier du traitement via les pharmacies hospitalières. Et donc, il est délivré dans le cadre d'un accès précoce. On va demander une autorisation nominative au laboratoire pour pouvoir ensuite commander et dispenser ce médicament-là. Et il y a une autre tranche de produits qui, eux, n'ont pas vocation par l'industriel à être commercialisé en France. Pour autant, on identifie des patients qui en ont besoin en France. Ces médicaments-là n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché en France. Et donc, c'est ce qu'on appelle des accès compassionnels. C'est-à-dire que nominativement, un prescripteur va demander à l'Agence nationale de sécurité du médicament et renouveler périodiquement l'autorisation pour pouvoir instaurer et poursuivre ce traitement chez son patient, et auquel cas il sera commandé par les pharmacies hospitalières et délivré par les pharmacies hospitalières. Et il y a tout un tas de recueils de données qui encadrent la mise à disposition de ces médicaments-là.
Et donc ça, c'est une démarche du médecin qui va faire ses recherches, et puis après il va vous consulter. Enfin, je veux dire, c'est quand même en collaboration, j'imagine.
Oui, dans le cadre de l'accès compassionnel, particulièrement, ne serait-ce que pour savoir comment accéder à la molécule. C'est des choses assez spécialisées, on va dire, et du coup, savoir par quel canal est-ce qu'on va faire un accès compassionnel, un accès précoce, est-ce qu'on va faire de l'autorisation d'importation, est-ce qu'on va faire un accès direct. Il y a tout un tas de process réglementaires qui sont à notre disposition et le pharmacien, il a sa place pour aiguiller le médecin pour savoir comment on va pouvoir accéder à ce médicament.
Tous ces dispositifs, en fait, ils sont importants parce que l'autorisation de mise sur le marché, c'est quelque chose qui est très lourd. Mmh. Aujourd'hui, un médicament est long, une dizaine d'années, pour entre le moment où on commence à screener la molécule et on va vraiment pouvoir en bénéficier sur le plan clinique. Or, dans certaines disciplines, notamment je pense à l'oncologie, il y a des temps qui sont plus courts. On revient toujours à ce rapport bénéfice-risque. Lorsqu'on est sur un risque vital, eh bien, on doit avancer plus vite. Et dans le domaine de l'oncologie, aujourd'hui, il y a 30 à 40% des prescriptions qui peuvent être hors AMM. Mais ce qu'il faut bien entendre, c'est que l'OAMM est légitime, mais il doit être encadré. Et pour éviter certains écueils qui se sont passés, notamment pendant la période Covid, il faut, du moment que l'on trouve des preuves dans la littérature et qu'on commence à avoir une agrégation d'informations, ça pose moins de problèmes que lorsque, en fait, on part d'une page blanche. Et là, c'est tout aussi tout ce que doit porter le pharmacien hospitalier, c'est-à-dire de s'assurer que dans ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, même dans la phase d'innovation, OK pour avancer sur l'innovation, mais pas à n'importe quel prix et pas, entre guillemets, faire les cow-boys.
C'est ce que vous disiez, Marion, tout à l'heure. Il faut argumenter, en fait, ce choix thérapeutique. Mais c'est une argumentation qui doit être faite aussi par le pharmacien. Il y participe parce que j'imagine que ses recherches sur la littérature vont aider le médecin à faire son choix.
Dans le cadre d'un accès compassionnel, un accès précoce par exemple, la demande elle est formulée par le médecin, mais elle est validée par le pharmacien qui la transmet aux autorités. Donc effectivement, c'est une... Et au préalable, bien sûr, il y a eu des échanges. Avant que la demande soit vraiment matérialisée sur des plateformes diverses et variées selon les typologies de produits. Donc c'est une collaboration médecin-pharmacien qui aboutit à ça.
Bon, alors j'ai une dernière question qui n'est pas une question très facile, mais dans la dernière version du projet de loi sur le suicide assisté en France, donc version qui n'a toujours pas été adoptée évidemment, hein, les discussions n'ont même pas encore repris pour l'instant, mais Dans cette version, la dernière qu'on a connue, le pharmacien avait une place particulière. Il devait être chargé de la préparation de la solution létale et de sa délivrance. Il devait aussi avoir la responsabilité de récupérer la solution qui n'aurait pas été utilisée. Comment avez-vous perçu cette proposition ? Préparer une solution létale, sans doute, ça ne peut pas être anodin pour un pharmacien. Est-ce que vous considérez que cette responsabilité du pharmacien, elle correspond ou non au prolongement des fonctions que vous assurez aujourd'hui ? Est-ce que c'est demander un changement dans vos fonctions, dans vos missions finalement ?
Alors peut-être juste d'abord, on va recontextualiser les éléments. Le premier, c'est que aujourd'hui, cette demande, elle est liée à des difficultés dans l'accès d'abord aux soins palliatifs.
Oui,
ça c'est
sûr.
Le premier élément. Donc le premier élément, c'est en tant que pharmacien et en tant que professionnel de santé, nous, ce que l'on recommande en premier lieu, c'est effectivement d'améliorer en France l'accès aux soins palliatifs, puisqu'il y a différents types d'études, mais 20-30% des patients auraient des difficultés à accéder à ce service-là. Donc ça, c'est vraiment la première recommandation, c'est que tout un chacun puisse être certain qu'il pourra être pris et accompagné dans ce type de structure. Donc ça, c'est la base.
Et là aussi, il y a un accompagnement par les pharmacies hospitalières qui est particulier.
Alors, dans ces services-là, il y a toujours pareil, la même dimension, approvisionner les services avec des produits particuliers, y compris avec des produits qui vont vers la sédation profonde, etc. Donc, bien évidemment, hein, ces produits sont mis à disposition par les pharmaciens hospitaliers. De même, il y a toute une stratégie sur la prise en charge pendant les dernières semaines, les derniers jours, avec des stratégies thérapeutiques qui sont différentes par rapport à une prise en charge classique.
Bien sûr.
On va commencer à arrêter certains produits, on revoit finalement quelle est l'utilité, le bénéfice dans les derniers jours. Ce n'est pas du tout le même, donc il y a des médicaments qu'on va arrêter.
Ouais.
Et par contre, il y a des médicaments que l'on va renforcer pour assurer véritablement que le patient ne souffre pas. Et l'aisance la plus importante jusqu'au dernier moment.
C'est-à-dire que là, dans ce cas, vous donnez la priorité, comme les soignants le font, enfin je veux dire les médecins le font à ce moment-là, la priorité elle est portée sur des aspects de ce qu'on appelle confort dans le milieu du soin, c'est-à-dire de ne pas souffrir.
Exactement. Voilà. Exactement. Donc ça, c'est le premier élément qu'il faut rappeler. Le deuxième, effectivement, pour des cas particuliers, on pense maladie de Charcot, mais bien d'autres maladies, aujourd'hui, il y a cette réflexion qui est enclenchée sur le fait de pouvoir véritablement accéder à un geste qui pourrait être plus anticipé et pour éviter finalement la dégradation du patient. Mais là, on voit bien qu'on rentre dans une dimension éthique.
Et oui, qui est tout à fait différente.
Qui est tout à fait différente. Là, ce que l'on dit, il y a plusieurs éléments aussi dans la réflexion. Le premier, bon, d'abord, en tant que professionnel de la santé, on appliquera la loi qui sera mise en place. Donc ça, c'est un premier élément. En revanche, aujourd'hui, il y a eu un gros débat sur la clause de conscience.
Oui.
Puisque c'est le premier élément. Aujourd'hui, en l'état actuel, cette clause de conscience n'est pas forcément aujourd'hui attribuée aux pharmaciens. Or ça, c'est un véritable problème.
C'est très surprenant.
C'est très surprenant parce que le pharmacien n'est pas simplement celui qui pourra préparer la fameuse solution létale, mais c'est aussi quelqu'un qui participe en fait à la prise en charge. Et donc, au même titre qu'un médecin ou qu'un personnel infirmier, cette clause de conscience, elle nous paraît capitale. Mmh. Donc sur le plan national, c'est un sujet qu'on porte auprès de l'Assemblée nationale, du Sénat, etc., pour que, en tout cas, les pharmaciens hospitaliers sont de fervents défenseurs de cette clause de conscience, si le dispositif est mis en place. Après, la troisième question, c'est Effectivement, professionnel de santé, on est plutôt là pour accompagner le patient dans une prise en charge du soin et pas sur finalement une solution qui pourrait devenir létale. La définition du médicament ne permet pas d'englober cette préparation létale.
Et oui, ce donc, serait un cas à part.
Ça serait un cas à part. Mmh. Donc ça, c'est vrai que ça va interpeller sur finalement cette nouvelle destination du produit qui ne peut pas être un médicament. Mmh. Voilà. Le quatrième élément, c'est que si cette activité devait être mise en place, par définition, on imagine que... alors, ça sera fait dans des pharmacies à usage intérieur, hein, dans des PUI et pas dans des pharmacies d'officine. Et y compris dans ces pharmacies à usage intérieur, il y aura un agrément. On parlait tout à l'heure des missions obligatoires et optionnelles. Bon, ça sera certainement les plus grosses structures qui auront cette mission à accomplir. Oui, oui. Et ensuite, la dernière question par rapport à tout ça, c'est est-ce que ce suicide assisté fait partie du soin ou est-ce qu'il pourrait être finalement délégué à d'autres acteurs. Mais là, on voit bien que la dimension éthique est majeure. Mmh. Et là, en fait, bon, quand on met un groupe de médecins, un groupe de pharmaciens, enfin un groupe de professionnels, là, on dépasse finalement ce qui peut nous rassembler. Et c'est l'intime qui va en fait s'exprimer. Et on est au cœur de l'éthique, en fait, chacun qui peut avoir ses propres opinions et sensibilités par rapport au sujet. Donc c'est un sujet très complexe. Mais en tout cas, il y a les soins palliatifs à renforcer, c'est sûr. Mmh. La clause de conscience pour les pharmaciens, si ça doit se faire, ça nous paraît indispensable. Et puis ensuite, beaucoup d'éléments qui relèvent de l'intime.
Oui, qui posent vraiment des questions. Et j'étais en train de me dire que tout à l'heure, on parlait de la balance bénéfice-risque qu'il y a toujours dans la production du médicament et dans la réflexion qui est menée autour de la prescription. Produire un médicament létal, enfin, même si ces deux termes sont contradictoires, hein, on est bien d'accord, mais produire une solution létale, plutôt disons comme ça, ça engage quand même toutes des questions de sécurité aussi, c'est-à-dire avoir ça dans son stock, comment encadrer la délivrance, c'est quand même assez complexe aussi, même du point de vue de, pas simplement éthique, mais aussi comment on va gérer une substance de ce type.
Exactement. Et donc ça, aujourd'hui, on n'y est pas. Hein.
Oui, oui, oui.
Donc les réflexions ne sont pas engagées, mais vous avez entièrement raison sur la sécurisation, ne serait-ce que du circuit de la production jusqu'à la destination du produit. On imagine, y compris les circuits logistiques, les risques de détournement, etc. etc. Enfin, voilà, beaucoup, beaucoup de questions sur un sujet de cet ordre-là, pour lequel aujourd'hui, tout n'est pas du tout défini.
Oui, oui, bien sûr. Je posais une question qui ouvre d'autres questions. Et donc, c'est une discussion peut-être qu'on pourra avoir à nouveau si la situation se pose un jour. Je vous remercie beaucoup tous les trois, Frédéric Évrard, Philippe Sestac et Marion Bourdoncle.
Merci à vous.
Merci à vous.
Merci à vous.
C'était Flora Bastiani pour Penser la Santé, le podcast du réseau de recherche Penser la Santé de l'Université Toulouse Jean Jaurès.